Bienvenue au balado Les Petits Caractères, l'espace de discussion qui vise à poser un regard critique sur les enjeux de consommation qui vous préoccupent. Mon nom est Marianne Speer, je suis votre animatrice. Et aujourd'hui, on débute le podcast avec une chronique de Joanne Leblanc, conseillère budgétaire. Allô, Joanne!
Bonjour!
Fait que tu vas rester avec nous pour le reste de l'épisode où est-ce qu'on va parler un petit peu plus des influenceurs puis de comment qui influencent nos habitudes de consommation. Mais en premier lieu, tu veux nous parler d'un phénomène au niveau des prêts qui t'inquiète un peu de ce que je comprends?
Oui, tout à fait, évidemment, avec l'inflation, avec les portefeuilles un peu plus serrés dans la dernière année, l'augmentation des prix de l'alimentation, l'augmentation des prix du logement. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens qui seraient portés à vouloir se tourner vers des institutions de prêts privés. Évidemment, tu sais, on est habitué, les gens sont habitués avec un certain confort de vie. Il y a des réaménagements à faire. On en a parlé dans des chroniques précédentes. Tu sais, normalement, quand il y a des changements, ben, on devrait réviser son budget puis faire des choix. Mm-hmm. Mais c'est sûr que ça peut être un processus qui est difficile. Puis parfois, ben, dans le désir de vouloir continuer le même rythme de vie, ben, on est à la recherche de liquidité. Ouais. Alors, que faire si on se tourne vers des institutions de prêts bancaires traditionnelles comme les banques, les caisses, et qu'on ne peut pas obtenir de crédit, la tentation est grande de se tourner vers des entreprises de prêts privés.
Ouais, surtout qu'en ce moment, avec la hausse des taux, les banques sont beaucoup plus sévères pour offrir des prêts. En tout cas, du moins de ce que j'ai entendu pour les prêts hypothécaires de mes amis courtiers hypothécaires et tout, c'est beaucoup plus difficile de faire passer des dossiers, mais ça reste, les autres types de prêts restent des prêts. Donc, avec les banques en ce moment, c'est peut-être un petit peu plus difficile qu'avant d'obtenir des prêts.
Bien, évidemment, si on parle de maison, les prix sont plus dispendieux, donc il y a peut-être un peu moins de personnes qui peuvent se qualifier.
Ouais.
Se qualifier, voilà, c'est ça. Mais outre les prêts hypothécaires, il y a aussi des prêts pour la consommation, pour acheter une voiture, pour se procurer certains biens. Peut-être aussi au niveau du microcrédit, là, tu sais, c'est une sphère aussi que les institutions financières traditionnelles offrent peu, tu sais, mais de faire des petits prêts. Autrement qu'en allant sur une carte de crédit.
Okay.
Et là, quand on veut avoir du crédit, puis si vous n'avez pas accès à une carte de crédit, ça peut être intéressant pour vous. Pas intéressant, mais tentant.
Tentant. C'est le bon mot. Ouais,
c'est ça.
Ce que tu veux dire.
Parce que c'est pas intéressant, justement. Et c'est pour ça que je voulais en parler. T'sais, moi, je pense que la première réflexion à se faire, c'est lorsqu'on ne peut pas obtenir du crédit dans une institution traditionnelle ou avec des moyens traditionnels, il y a peut-être une raison. C'est évidemment, c'est souvent relié au fait que notre dossier de crédit n'affiche pas un pointage qui est intéressant pour les institutions financières. Mais si tel est le cas, il y a une, tu sais, ça veut dire que vous avez de la difficulté probablement soit à payer vos factures actuelles et de continuer à consommer. Puis, toutes sortes de produits, d'acheter toutes sortes de choses, c'est pas nécessairement la solution.
Ouais, puis c'est peut-être un peu d'arrêter de penser que le problème, c'est le manque d'argent. Si le problème, c'est que ta cote de crédit te permet pas d'emprunter, le problème, c'est que ta cote de crédit te permet pas d'emprunter.
Voilà.
Fait que c'est d'arrêter à ta cote de crédit et non pas de penser qu'il faut plus d'argent. Puis je comprends qu'il y a des situations que c'est sensible de dire ça, puis qui ont vraiment besoin de plus d'argent, mais je pense que dans la plupart des cas, on serait beaucoup plus gagnant de travailler sur notre code de crédit puis sur nos habitudes ou de revoir nos habitudes d'achat puis de consommation selon le contexte économique que d'essayer de continuer un style de vie qui fonctionne plus avec
la réalité actuelle. Ouais. C'est ça, là. J'aime bien la petite formule anglaise « no money, no candy ».
Ah.
ça dit ce que ça dit.
Ouais.
Juste pour vous donner un ordre d'idée là, de ce que c'est un prêt dans une institution privée, on a chez Options Consommateurs, tu sais, on rencontre parfois là, dans les consultations budgétaires des gens qui ont fait affaire avec eux. Et la raison souvent pour laquelle ils viennent consulter, c'est je paye et je n'arrive pas à faire baisser mon prêt. Et on se demande pourquoi. Quand on examine un peu les tenants et aboutissants des ententes qui ont été prises, on retrouve des produits extrêmement pas pas intéressant pour les consommateurs. Par exemple, c'est du prêt élevé, hein, on va se le dire, là, c'est du prêt élevé.
Fait que ça ressemble pas à ce qu'on retrouve dans les banques, en fait.
Pardon?
Ça ressemble pas à ce qu'on... Les prêts privés, ça ressemble pas à ce qu'on retrouve dans les prêts dans des institutions financières traditionnelles.
Pas du tout. Okay. Ces prêteurs-là, en moyenne, on va voir des taux d'intérêt qui frôlent les 35 %.
OK.
Ça monte vite, là.
C'est énorme.
C'est énorme. Et très souvent, le montant que vous allez emprunter à la base, si vous partez pour faire un prêt, par exemple, de 5 000 $ on va ajouter des produits avant de partir le compteur des intérêts. Par exemple, des frais d'administration qui vont s'ajouter, des produits d'assurance et plusieurs types d'assurance, même si vous avez probablement déjà des assurances, par exemple, pour votre assurance logement ou maison, votre assurance auto, une assurance vie.
Une assurance salaire, peut-être.
Une assurance invalidité. Et on intègre ça dans le contrat, comme si vous achetiez cette assurance-là. Puis après ça, on part le compteur pour les intérêts. Fait que là, ça commence, c'est plus un prêt sur 5 000 $ c'est un prêt sur 7 000, 8 000 $
Les intérêts s'appliquent même sur les garanties et frais de départ?
Bien, sur l'ensemble du montant qui a été emprunté.
Oh là là,
intégrant les frais d'administration.
OK.
Fait que là, ça commence à monter. Fait que là, on se retrouve à la base avec un prêt de 5 000 $ puis on se trouve à rembourser un montant de autour des 15 000 $
C'est ça, beaucoup. C'est si on arrive à le rembourser.
Bien, ça fait ça fait une grosse différence. Alors que dans une institution financière privée, vous auriez sans doute, évidemment, vous allez payer des intérêts, mais pas de cette façon-là. Puis les intérêts vont être intégrés sur la valeur du prêt que vous demandez. Puis on prend pas nécessairement le temps de bien vous expliquer le contrat et de s'assurer que vous comprenez bien qu'est-ce que vous empruntez exactement comme produit. Et c'est ça, moi, qui me touche puis qui me fait un peu de peine pour les gens parce qu'ils ont signé des contrats sans nécessairement bien les comprendre. Et c'est ça qui devient un petit peu pernicieux dans ce type de prêt-là.
OK. Fait que c'est ça que tu voulais nous dire aujourd'hui, nous avertir de cette situation-là.
Oui, tout à fait.
Super. Ben merci beaucoup, Joanne. Alors, on garde en tête que les prêts privés, ce n'est pas du tout la même chose que les prêts qu'on peut faire dans des institutions traditionnelles, des institutions bancaires traditionnelles.
Posez des questions. Prenez le temps de bien lire le contrat, puis de le comprendre. Puis si vous avez des doutes, vous n'êtes jamais obligé de signer tout de suite. Allez voir quelqu'un qui peut vous aider à bien le comprendre. Puis après, si vraiment, en toute connaissance de cause, vous voulez le signer, là, ça sera un vrai choix, une vraie décision.
Super. Merci beaucoup, Joanne. Pour le reste de l'épisode, on vous invite à la prudence. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'influenceurs œuvrent à promouvoir certains produits en utilisant leur authenticité et leur style de vie. Derrière les photos vraiment inspirantes et des conseils visant à notre mieux-être sous toutes ses formes, à l'aide de belles décos, des corps des corps huilés, des corps musclés, des corps, disons, avec beaucoup d'avantages qui sont mis de l'avant, des santé béton, ou même des fois des promesses de richesse qui sont autour de ces photos-là, de ce contenu-là. Mais des fois, ils se cachent du contenu publicitaire, des intérêts qui sont pas les nôtres, qui sont pas ceux des consommateurs, mais plus de la personne qui est en train de promouvoir un produit quelconque. C'est pourquoi on vous invite à la prudence. Je dis « on vous invite à la prudence » parce que je ne suis pas seule. Il y a toujours avec moi Joanne Leblanc, mais également Sarah-Ève Levac, conseillère juridique et avocate chez Options Consommateurs, qui s'est joint à nous. Bonjour Sarah-Ève.
Bonjour Marianne.
Merci d'être là. Ça va bien?
Oui, ça va bien toi?
Oui. Je trouvais ça drôle en pensant au sujet d'aujourd'hui parce que en janvier 2022, il y avait la fameuse histoire des influenceurs à Touloum dans l'avion. Je ne sais pas si vous en souvenez.
Oui,
qui avait fait vraiment... oui, ça avait fait mauvaise presse aux influenceurs. Oui. Puis un an après, presque jour pour jour, en janvier-février 2023, il y a eu la première édition du gala Influence Création. Est-ce que vous en avez entendu parler de ça aussi?
Oui, tout à fait.
Ça rêve, non. Joanne, oui. Ben, en tout cas, c'est un gala qui a été créé pour redorer un peu l'image des créateurs de contenu, des influenceurs, puis aussi les féliciter pour tout ce qu'ils créent dans l'année. Puis aussi, des fois, tu sais, ils avancent des belles causes, mais des fois, il y a des histoires aussi comme les avions à Tulum. Fait que là, tu sais, le consommateur, là-dedans, il se retrouve à être influencé par des gens. Puis on a de la misère, des fois, à faire la différence entre qui est bon comme influence et qui n'est pas bon comme influence. Fait que j'imagine que vous n'avez pas toutes les réponses, mais j'espère que vous allez pouvoir nous éclairer un peu là-dessus. Donc, Sarah-Ève, toi, qu'est-ce que tu aimerais nous dire concernant les influenceurs?
Donc, c'est ça. L'idée, c'est parler un peu des influenceurs. C'est pas de dire que les influenceurs sont négatifs. C'est juste de donner d'outiller les consommateurs à aiguiser leur esprit critique en ligne. Donc, on va parler un peu des influenceurs qui promeuvent des produits et ceux qui s'auto-promeuvent aussi, là, qui nous préparent, qui proposent des solutions miracles pour changer nos finances, etc. Et donc, l'idée, c'est de donner un peu des drapeaux rouges, des réflexes à adopter en ligne quand les influenceurs nous proposent des choses. Donc, je vais parler premièrement des influenceurs qui nous proposent des produits, des services en ligne. Donc,
Puis pourquoi est-ce que c'est aussi efficace le type de promotion en ligne?
Oui, c'est ça. Ben, je dirais qu'il y a trois points que j'ai relevés. Premièrement, ben les influenceurs, ils nous partagent leur quotidien, ils nous partagent leur vie de tous les jours. Puis ça peut créer un sentiment d'authenticité ou d'une certaine forme de relation avec les influenceurs. Ce qui nous, puis ce format-là, là, se prête davantage à faire confiance à ce que les influenceurs nous proposent parce qu'on perçoit qu'ils ont essayé les produits eux-mêmes ou les services et donc ce qu'ils nous proposent, c'est quelque chose qu'ils endossent vraiment ou qu'ils ont vraiment apprécié.
Ouais, versus, tu sais, par exemple, je pense aux publicités de mascara, là, c'est juste ça qui me vient en tête, là, tu sais, quand j'étais, mettons, un peu plus jeune, puis je voyais comme Fergie qui avait une publicité pour un mascara, tu sais, même de mon jeune âge, que je sais pas, disons que j'avais 6-7 ans, je me disais quand même, c'est probablement que Fergie utilise pas le mascara. Mais là, avec les influenceurs, tu sais, si je vois une influenceuse que j'aime beaucoup, puis des fois, honnêtement, il y en a que j'aime autant que Fergie, là, utiliser un produit, dans ma tête, c'est beaucoup plus logique que oui, elle l'a utilisé, tu sais, parce qu'elle se maquille elle-même, parce qu'elle est pas en tournée, parce que blablabla. Fait que je comprends la genre de barrière qui est moins là par rapport aux publicités traditionnelles.
Oui, ce qui amène aussi au deuxième point, pourquoi ça fonctionne bien. Mais comme tu dis, l'exemple du mascara, si je regarde une influenceuse qui fait des tutoriels de maquillage, et là, tout d'un coup, elle me dit « Ah, moi, j'utilise ce mascara-là, il fonctionne vraiment bien », mais il y a peut-être des choses qui se cachent derrière ça. Est-ce qu'elle l'a reçu en cadeau? Est-ce qu'elle a reçu de l'argent de cette compagnie-là? Donc, comme tu dis, la deuxième raison pour laquelle ça fonctionne bien, la promotion en ligne, c'est que ça se mixe très bien avec le contenu de l'influenceur.
C'est ça.
Oui. C'est ça, il n'y a pas de coupure. Si j'écoute une émission à la télé, je sais que l'émission, il y a une pause, puis là, on me parle de détergent. Donc, je sais qu'on n'est plus dans le contenu, je ne suis plus dans l'émission. Mais la promotion en ligne dans le contenu des influenceurs, ça se mêle avec leur contenu ordinaire, dans le fond. Si je peux prendre un exemple de tout le phénomène du déballage, donc le unboxing, là, le terme en anglais, où des influenceurs vont ouvrir des produits, puis nous présenter les produits en l'ouvrant, puis donner leurs impressions. Parfois, c'est pas clair, dans le fond, si on est dans un contenu promotionnel ou non, parce que on va, tu sais, des fois, ça va être écrit que le vidéo est pas sponsorisé, est pas commandité, mais en même temps, l'influenceur nous dit qu'il est vraiment content d'avoir reçu ces produits-là des compagnies.
Puis des fois, c'est vrai qu'il est pas sponsorisé ou tu sais qu'il a pas reçu d'argent. Ça m'est arrivé, ben, quelques fois de recevoir des petits colis. La plupart du temps, à chaque fois que je les présentais, c'est vraiment des entreprises que je connais, que j'avais déjà eu leurs produits. Puis tu sais, moi, je vis pas de la création de contenu ou d'être influenceuse. Fait que tu sais, je le fais juste vraiment quand j'ai envie. Mais un jour, j'ai reçu une boîte d'une compagnie d'impôts, là, tu sais, je n'aimerais pas. Mais je trouvais ça vraiment le fun parce que c'était comme la première fois que je recevais un produit qui était en ligne direct, un peu avec mon contenu. Puis dès que j'ai reçu la boîte, tu sais, j'ai eu envie de faire un live puis de la déballer devant les gens. Puis j'ai pas été payée pour ça. Puis c'était pas un contenu promotionnel. Puis tu sais, j'ai bien fait attention de dire je vais l'essayer, ce qu'ils me proposent de faire, puis je vais vous revenir. Puis finalement, comme de fait, je l'ai essayé puis ça marchait pas du tout. Là, je peux vous dire que ma comptable, je fais encore vraiment affaire avec elle. Puis c'est juste parce que ce qu'ils proposaient fonctionnait pas pour mes besoins, mais tu sais, j'ai d'autres gens dans mon entourage qui fonctionnent avec cette compagnie-là puis qui ont aucun problème puis que ça fonctionne bien, mais moi, ça marchait pas pour moi. Mais reste que j'ai fini par faire un fameux déballage parce que c'est vrai que l'excitation est là puis que c'est du contenu, le fun à regarder, de voir quelqu'un déballer un cadeau, mais tu sais, peut-être que j'ai influencé des gens à acheter
sans le forfait.
Oui, c'est ça.
Ça part pas toujours d'une mauvaise intention.
Non, exactement. C'est ça.
Mais l'idée, c'est justement que les gens soient au courant de ces, oui, c'est ça, de ces réalités-là. Si l'influenceur a pas reçu une contrepartie d'argent, que c'est pas une pub, donc, on peut se poser la question, si la personne l'a reçu en cadeau, elle a quand même une incitation à présenter le mm-hmm. produit de manière positive pour recevoir d'autres cadeaux de la même compagnie, pour essayer d'avoir peut-être un partenariat avec cette compagnie-là. Donc, ça peut influencer justement la façon dont le produit est présenté. Donc, c'est peut-être pas neutre et cette personne-là a reçu, dans le fond, un cadeau. Qui est le produit. D'autres choses à se demander, si on regarde un contenu en ligne, si on est en face avec une promotion ou une pub, est-ce que le vidéo présente un mot-clic, comme un hashtag commandité, un mm-hmm. hashtag ad en anglais ou un hashtag pub? Donc, la présence de mot-clic, là, c'est un signe
que l'influenceur a
de
l'argent. Mais ça, je trouve que c'est bien.
Oui.
Même que j'ai commencé à avoir mm-hmm. Des gens que... Ben en fait, il y a certains influenceurs que je remarque que c'est dans leur dernier hashtag ou dans leur dernier clic. Puis il y a d'autres créateurs de contenu ou influenceurs que je suis que c'est la première chose qu'on voit dans la description. Comme « ceci est une pub », tu sais, mm-hmm. de manière vraiment claire. Ou « partenariat commandité oui. ». Puis en tant que consommatrice, on dirait que tout de suite, je me sens moins manipulée dans le vidéo puis je le regarde avec un œil plus avec un esprit critique.
C'est ça, mais des fois c'est subtil, c'est difficile. Ouais. Il y a des plateformes où c'est les politiques demandent d'écrire là qu'il y a une mm-hmm. promotion payante ou etc. Mais parfois effectivement comme tu dis c'est clair et des fois c'est plus subtil.
Ouais. Ben je disais ça dans le sens où ça peut être un bon signe de tu sais quel type de contenu va moins va t'influencer mais de manière plus pas concrète, là, mais de manière où tu vas plus t'en rendre compte, où tu vas moins te faire manipuler dans tes achats de consommation. Là. Ça a l'air d'un gros complot, mais vous comprenez que non, c'est pas ça que je veux dire.
Puis peut-être un autre dernier truc aussi pour essayer de reconnaître si on est en face avec une promotion ou une publicité, c'est est-ce que l'influenceur présente un code promo relié au produit ou un concours? Mais là, c'est également un signe là, qu'il y a eu un partenariat avec l'entreprise, puis probablement que cette personne-là a reçu une contrepartie là, pour parler d'un certain produit ou un service. Puis, ce que je dirais comme dernier point aussi, des raisons pour lesquelles ça fonctionne, la publicité en ligne, la promotion en ligne par les influenceurs, c'est que les influenceurs vont souvent être dans un domaine très spécifique ou niché.
Ouais.
Par exemple, on parlait du maquillage ou le fitness, l'entraînement physique. Et on peut avoir tendance à penser que ces personnes-là ont une certaine expertise et donc ça rend leur promotion puis leur recommandation plus crédible. Donc, si j'ai un influenceur qui fait du fitness, là, qui me parle de son entraînement et qui, après ça, me propose des produits de suppléments protéinés, je peux avoir l'impression que cette personne-là, dans le fond, me recommande des produits qui fonctionnent parce qu'elle a comme une expérience dans tout le domaine du fitness puis du conditionnement physique. Et dans ce cas-là, je peux aussi me poser des questions. Si cette personne-là me recommande un produit qui devrait avoir des résultats rapides sans trop d'efforts, là, c'est probablement trop beau pour être vrai. Autrement aussi, si on me propose un produit qui va donner des résultats miracles, là, très rapidement, de perte de poids, de muscles, qui vont prendre de l'ampleur, les solutions miracles, là, ça fonctionne, ça existe pas vraiment non plus. Puis les produits peuvent pas vous convenir personnellement pour toutes sortes de raisons, pour votre santé, pour les médicaments que vous prenez, etc.
Puis je pense qu'encore là, on touche à quelque chose au niveau de la création de contenu où il y a beaucoup de monde qui partent avec des bonnes intentions.
Mm-hmm. Oui.
Puis au moment de faire la vidéo, tu finis par savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, le temps de rétention d'attention des gens, que tu dois faire des vidéos plus courtes. Tu finis par couper sur des affaires qu'au début, tu sais, tu trouves comme subtiles, mais peu à peu, tes standards baissent au niveau de ta création de contenu, puis tu t'attaques juste, tu crées du contenu juste sur qu'est-ce que tu sais qui va fonctionner, puis tes abonnés vont aimer. En tout cas, j'ai pu remarquer ça sur quelques créations, puis moi-même, des fois, je faisais des vidéos, puis j'en fais encore, puis je recevais des questions que je savais que si je répondais à cette question-là, ça allait vraiment créer de l'engagement, puis que les gens voulaient avoir la réponse. Mais je savais que c'était pas une question simple à répondre, que c'était même pas non plus à moi d'y répondre directement. Puis je voyais pas la valeur ajoutée de répondre à une question qui peut être que la réponse va être tellement différente d'une personne à l'autre que je voyais pas l'intérêt de d'y répondre publiquement juste pour avoir des vues ou avoir des likes ou autre. Mais encore une fois, quand que c'est rendu une grosse partie de tes revenus ou ton travail, je pense que ça peut être facile de tomber dans la dans l'attrape de faire du contenu qui est moins qui a moins de chair.
Ben c'est vraiment intéressant ce que tu me dis là, parce que moi ce que je vois, c'est que l'influence, ça va dans les deux sens. T'sais, l'influenceur peut se laisser influencer par son public.
C'est vrai.
Et vouloir lui faire plaisir, puis à vouloir lui faire plaisir, ben il va s'éloigner peut-être un petit peu des règles du cadre correct.
J'allais dire qu'on peut vérifier. S'il y a des gens qui nous font des propositions spécifiques pour des problèmes spécifiques, là, par exemple, on nous parle de thé, le détoxifiant qui doit soulager des problèmes de digestion, etc., c'est de vérifier justement, est-ce que cette personne-là a la formation pour nous parler de produits ou nous donner des solutions pour des problèmes spécifiques? Est-ce qu'elle a une formation en médecine, en nutrition? C'est des choses qu'on peut vérifier là, si quelqu'un fait partie d'un ordre ou quelles études elles ont faites. Puis de garder en tête là, pour les consommateurs de quand on a des appellations qui donnent une apparence d'être une appellation professionnelle comme coach en nutrition ou spécialiste en santé holistique, qui sont pas nécessairement des titres réservés, de faire attention là quand on a ces des influenceurs qui se présentent comme tels et qui nous donnent des conseils spécifiques là pour notre santé.
Absolument. Puis j'ajouterais juste à ce propos-là que le nombre d'abonnés, c'est en aucun cas un signe de crédibilité quand on parle d'un domaine qui est réglementé.
Tout à fait.
C'est sûr que si on parle de divertissement, de pub ou blablabla, ben de divertissement, de pub, je veux dire, d'un domaine qui n'est pas réglementé, ben c'est que la personne, elle est populaire. Puis c'est tout ce que ça veut dire. Mais pour un domaine qui est réglementé, le fait d'avoir beaucoup d'abonnés va jamais être un signe de crédibilité. Puis même, je vais me prendre en exemple. J'ai un DEC en services financiers, j'étudie au bac en administration en finance, mais j'ai pas de permis. Je suis pas conseillère en sécurité financière, je suis pas comptable, je suis pas fiscaliste, je suis pas planificatrice financière. Mais mon nombre d'abonnés fait que des fois, il y a des gens qui pensent que oui. Puis ils m'écrivent des questions, puis ils me posent des questions, puis jamais je vais y répondre. Mais reste que le consommateur peut penser que oui. Puis c'est pas parce que j'essaie de tromper, c'est pas parce que rien. Mais quand on parle d'un domaine réglementé, juste fiez-vous pas au nombre d'abonnés, là. Fiez-vous à l'ordre professionnel.
Mais l'autre chose aussi, quand on parle de crédibilité avec le nombre d'abonnés, c'est qu'il existe tout un marché d'achat de likes ou d'abonnés en ligne. Donc, ça peut gonfler, en fait, le nombre d'abonnés là, que la personne a. Donc, c'est pas nécessairement représentatif non plus.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, on prend beaucoup de temps un peu pour cet épisode-là, mais c'est assez intéressant. Fait que je vais me diriger vers Joanne, Sarah, si tu me le permets, pour qu'on puisse entendre un peu son avis sur le sujet.
Ben c'est un peu ça, tout à fait. Tu sais, il y a moyen de tricher aussi, hein, pour gonfler les apparences concernant ton profil. Mais moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de parler. Puis, tu sais, j'ai beaucoup aimé là tout ce que Sarah Eve a dit, et j'aimerais ça parler plus précisément parmi la panoplie là des influenceurs qu'il y a. Évidemment, là, je suis conseillère budgétaire, fait que il y en a une sorte d'influenceur qui m'interpelle un peu. Ce sont les fins influenceurs.
Ah, c'est les fins influenceurs.
En français, les fins influenceurs.
Ok, je pensais finfluent. Ah, ben oui.
Finfluenceur, oui. C'est ça. En anglais, là, ça va. C'est ça, mais notre français, il est important. Alors.
T'as raison.
On dit les fins influenceurs. Et ça, c'est une catégorie particulière qui m'interpelle parce que il y a quand même beaucoup d'impact pour les gens qui décident de suivre les conseils des personnes.
Des fins influenceurs qui sont
des fins influenceurs,
des gens qui parlent de finance, c'est ça?
Ils parlent de finance. Ouais, okay. Qu'est-ce que c'est un fin influenceur? C'est un influenceur qui va commencer à donner des conseils sur les investissements, sur le monde de la finance, sur le comment faire de l'argent.
Ah oui.
Et là, on retrouve toutes sortes de choses. Évidemment, comme tu disais tout à l'heure, il peut y avoir certains influenceurs qui sont consciencieux, qui appartiennent à des ordres professionnels, puis qui sont tout à fait conscients de la limite à ne pas franchir. Puis, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu moins.
Ouais. Puis c'est vraiment un avis personnel que je vais dire, c'est vraiment une observation personnelle, mais les finfluenceurs qui selon moi sont les plus crédibles, ça va vraiment pas être ceux qui ont le plus d'abonnés. Parce que c'est pas un domaine qui est... Oui, c'est un domaine qui est intéressant, mais c'est pas un domaine qui est tant le fun que ça. C'est pas fancy. Puis, tu sais, on est au Québec en plus, là, les impôts, les déductions. C'est un domaine qui est quand même compliqué. Puis pour faire un contenu qui punch, je pense qu'il faut que t'en laisses de côté un peu comme que je l'ai dit tantôt. Tu sais, faut que t'enlèves de la chair sur ton contenu pour que ça punch. Puis à ce moment-là, tu perds des informations importantes qui auraient dû être dites. Fait que pour moi, des fins influenceurs que je suis, puis que je trouve que c'est les meilleurs, c'est eux qui ont le moins d'abonnés. Là. C'est ben pas qu'ils ont le moins d'abonnés, mais je pense pas qu'ils ont un marché de 200 à 300 000 abonnés à Québec qui va être vraiment, vraiment intéressé à leur contenu. Peut-être que ça va venir, mais pour l'instant, les vidéos de fins influenceurs qui punchent le plus, qui ont le plus de vues, qui ont le plus de commentaires, à chaque fois que je regarde, il y a quelque chose d'erroné dedans. Toujours.
Ben c'est ça, tu sais, ceux qui ont les compétences nécessaires pour le faire, évidemment, les propos qu'ils vont aborder vont être moins fantasmagoriques.
C'est ça.
c'est sûr, plus près de la réalité. Tu vas gagner un petit peu moins d'argent, lentement, mais plus sûrement.
Oui, c'est sûr, parce que c'est ça, si la vidéo dit que tu payes 53% d'impôts, la vidéo, il va faire réagir, parce que c'est assez choquant, mais c'est parce que c'est pas vrai, tu sais, dans la plupart des cas. Fait il y a plein d'affaires comme ça. Ou si la vidéo dit que tu vas faire des milliers, des milliards en très peu de temps, c'est sûr que ça fait réagir, mais est-ce que c'est du contenu informatif, éducatif?
Mais juste pour donner comme un petit exemple, puis tu sais, il y a des gros impacts, là. Pourquoi cette catégorie-là plus particulièrement m'intéresse? Parce qu'il y a un impact autant au niveau des individus que du marché aussi. Ça va plus loin, là. Mm-hmm. Un bel exemple de ça,
marché, ouais.
C'est Mme Kim Kardashian qui a, en juin 2021, recommandé l'achat d'une crypto-monnaie via ses réseaux sociaux.
Ah, il y a eu un impact
qui a été assez majeur. Ça a créé en très peu de temps un volume d'échange de 600 millions sur ce titre-là de crypto-monnaie, que je ne nommerai pas.
Okay.
Mais il y a eu un impact aussi pour ceux qui ont suivi ce conseil-là. Malheureusement, ça n'a pas été aussi profitable que ce que Mme Kardashian avait promis. Et elle a été poursuivie devant la Securities and Exchange Commission et elle a été condamnée à payer une amende de 1,7 million et 3 ans d'interdiction de parler de crypto-monnaie. C'est ça. Bon, pas envie de pleurer, là. La madame, elle a apparemment, selon Fortune, elle a des actifs qui s'élèvent à 2 milliards de dollars. Elle avait les moyens de payer cette amende-là.
En effet. Est-ce que tout le monde qui a participé à l'achat de la crypto avait les moyens de perdre leur argent?
Ben voilà.
C'est une autre question.
Ben voilà. Tu sais, on a ici une personne qui a une tolérance au risque. Elle, si elle veut faire des tu sais, gambler un petit peu, là, puis si elle veut prendre des risques, elle en a les moyens. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mm. Tu sais, puis faire essai-erreur, parce que c'est aussi ça.
Exactement.
Aussi, hein, aller sur les marchés boursiers ou aller s'improviser investisseur, c'est quelque chose, là. Mm.
Puis j'aimerais dire que c'est souvent ça, le rôle de la personne qui est dans un domaine réglementé puis qui a un permis, c'est pas de savoir si l'investissement en tant que tel ou si le traitement en tant que tel est bon ou pas bon, c'est de savoir si l'investissement correspond à la personne qui est devant lui ou si le médicament ou le produit correspond à la personne qui est devant lui. T'sais, au-delà de dire si un produit est bon ou pas bon, il y a une expertise de plus quand tu es un conseiller en quoi que ce soit dans un domaine réglementé, qui est de pas juste avoir une opinion sur le produit, mais de faire une analyse du produit ou du service en lien avec toi, ta situation.
C'est ça, ta personne, c'est quoi tes buts, c'est quoi tes rêves, où est-ce que tu veux être dans 10 ans. Puis on n'ira pas seulement dans le court terme, on va aller dans le long terme aussi, le moyen puis le long terme, puis on va avoir une approche qui est tout à fait réaliste par rapport à ta situation particulière.
Ouais.
Et ça, c'est très, très, très important. Et c'est une des choses aussi qu'on remarque parmi les influenceurs, les fins influenceurs là, qui sont peut-être un petit peu moins crédibles. On va voir toutes sortes de de conseils qui vont être très, très, très généraux. Là aussi, comme ma collègue le disait, il y a du placement de produits. Il faut faire attention. Tu sais, c'est pas nécessairement des conseils ou des propos qui sont complètement désintéressés. Certains vont avoir du placement de produits à faire. Et aussi, on voyait l'impact qu'il peut y avoir sur les marchés. Parfois, ça peut être des personnes aussi qui vont promouvoir leurs propres intérêts parce qu'ils ont fait des placements dans certains secteurs, puis ils ont intérêt à ce que ça bouge et que ils vont en tirer un bénéfice. Puis encore là, ben c'est ça. L'intérêt n'est pas nécessairement centré du bon côté, pas du côté du consommateur, mais c'est, on parle plus d'intérêt personnel ou d'intérêt même de groupe qui peuvent être à l'intérieur, tu sais, qui peuvent se concerter pour créer des mouvements d'investisseurs, des mouvements de foule sur les marchés. Fait que faut être un petit peu vigilant à cet égard.
Il nous reste plus beaucoup de temps. En fait, on a dépassé là, habituellement le nombre de minutes qu'on fait pour les podcasts. Fait que merci à ceux qui continuent de nous écouter là, malgré qu'on prend plus de temps qu'à l'habitude. J'aimerais juste qu'on termine en nommant les drapeaux rouges, selon toi, à avoir en tête quand on regarde du contenu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui peut être un drapeau rouge pour un fin influenceur?
Bien, la personne n'identifie pas sa formation. Ça, c'est une affaire qui me frappe, là. T'essaies de savoir c'est qui, elle étudie où, elle fait partie de quel ordre professionnel, on ne sait pas. C'est dans le flou, c'est dans le pas clair. Souvent, les personnes vont parler de leur expérience personnelle plutôt que de leur crédibilité, leur compétence. On va parler du désir d'aider les gens plutôt que, encore là, de leurs vraies compétences. On parle pas des réalisations. Est-ce que les réalisations sont vérifiables? Est-ce que c'est-tu chiffré? On donne des conseils très flous. Si tu veux, tu peux. C'est quoi vraiment tu vas y arriver? On vend du rêve, du style de vie, de la facilité, des miracles, puis de la rapidité. Tu sais, les questions qu'on peut se poser, là, c'est le conseil est-il douteux? Est-ce que les conseils sont imprudents? Est-ce qu'ils vous incitent à faire des choses risquées? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser quand on suit ce type d'influenceurs. Est-ce que ces références sont vérifiables? Est-ce que ces résultats, les résultats dont ils parlent, est-ce qu'ils sont vérifiables? Quelle est sa motivation, son intérêt? Qui écrit les commentaires sur les profils? On parlait du nombre d'abonnés tantôt. Il y a des robots follow, unfollow. Oui. Il y a toutes sortes de techniques qui permettent d'acheter des likes, d'acheter des abonnés, d'avoir des faux commentaires en utilisant d'autres groupes de blogueurs. Ben c'est ça, fouillez un peu, là. T'sais, si vous fouillez un tout petit peu, là, deuxième niveau, troisième niveau, vous allez vous rendre compte vite que le nombre d'abonnés, c'est assez vite.
Ben Joanne, ça rêve. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais juste dire une dernière petite chose, c'est de prendre l'habitude de ne pas consommer du contenu de divertissement comme du contenu informatif ou éducatif. C'est-à-dire que consommer du contenu informatif, oui, mais avec plus de précautions que du divertissement, puis vérifier du mieux possible l'info, surtout avant de la partager à toutes ses amies. C'est mon petit conseil. Je ne suis pas avocate, je ne suis pas conseillère budgétaire, mais j'ai passé beaucoup de temps avec vous autres qui êtes dans le domaine.
Et tu es consciencieuse.
Et je suis consciencieuse. Ben, merci beaucoup, Joanne. Merci, Sarah-Ève. Et merci à nos auditeurs. Je vous annonce que c'est le dernier épisode de la saison. Donc, je vous invite à aller écouter, réécouter peut-être des épisodes que vous avez manqués ou que vous avez beaucoup aimés puis que vous aimeriez réécouter. Ils sont tous disponibles sur pas mal toutes les plateformes de balado. Je suis vraiment heureuse et je me sens chanceuse d'avoir pu être votre animatrice cette saison-ci. Alors, au revoir tout le monde et consommez prudemment.